L'économie française a connu une récession massive l'année dernière. Selon l'INSEE, sous le coup de l'épidémie de Covid-19, le PIB, c'est-à-dire la richesse produite sur l'année, a reculé en 2020 de 8,3% selon une première estimation. Alors celle-ci est toutefois moins mauvaise que ce qu'anticipait l'Institut de statistique. L'INSEE prévoyait en effet un plongeon du PIB d'environ 9%. Bonjour Patrick Artus.
Bonjour Emmanuel.
Le gouvernement prépare l'opinion à un nouveau tour de vis sanitaire. Dans son état actuel et selon les derniers chiffres publiés donc ce vendredi par l'INSEE, est-ce que l'économie française peut se permettre un nouveau confinement ?
Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a quand même une capacité de résilience de l'économie qui s'améliore au cours du temps. On sait maintenant gérer un confinement avec une perte d'activité qui est nettement plus faible que celle qu'on avait en début d'année. Le quatrième trimestre est moins mauvais que ce qu'on anticipait. Et ceci, parce qu'à nouveau, on a su faire un confinement plus fin et plus subtil, si on peut dire, que celui du mois d'avril. Alors, on a quand même des estimations qui viennent des travaux de la Banque de France, de l'INSEE, de l'OFCE, etc., sur ce qu'on perd dans un confinement du type du mois de novembre. On sait que ça coûte à peu près 12 points de PIB sur le mois. Donc, si on fait ça pendant un mois et réparti sur une année, ça coûte un point de PIB sur l'année, quoi. Donc, on sait à peu près ce à quoi il faut s'attendre.
En milliards d'euros, ça fait combien, grosso modo?
Un point de PIB, c'est 24 milliards. Et donc, si on doit avoir un mois, ou c'est même plutôt un mois et demi de confinement de ce type bientôt, hein, et pour réduire à nouveau l'épidémie, bah, un mois et demi de confinement de type novembre, ça coûte à peu près un point et demi de PIB sur l'année. Le 6% qu'annonçait Bruno Le Maire était bien entendu sous l'hypothèse qu'il n'y aurait pas… Le maire est très clair là-dessus, hein, qu'il n'y aurait pas de restrictions sanitaires nouvelles en 2021. Donc, si on arrive à se tirer de cette crise avec un mois et demi de confinement de type novembre, et puis ensuite la vaccination permet que ça ne recommence pas, on peut penser qu'on aura à peu près 4,5% de croissance en 2021. Hein. Et donc, c'est pas catastrophique, quoi. Les scénarios catastrophiques, c'est des scénarios où il faudrait à nouveau confiner plus tard parce qu'on prend beaucoup de retard dans la vaccination. Voilà, mais c'est pas le scénario le plus central aujourd'hui.
Alors, quels sont les outils, j'irais, dans la boîte comment limiter la casse? Est-ce qu'il faut revoir comme… le dit le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt, est-ce qu'il faut revoir la politique du quoi qu'il en coûte?
Non, alors je crois qu'il a été d'ailleurs relativement désavoué assez vite. Tant qu'on est dans une crise sanitaire et que par ailleurs la Banque Centrale Européenne achète toutes les dettes qu'émettent les États et paye en créant de la monnaie, il n'y a pas de limite aux déficits qui sont d'une nature cyclique. Hein, donc, tous les déficits publics qui sont liés à la crise sont des déficits pour lesquels il n'y a pas besoin de se rationner. Hein. Donc, si cette crise dure plus longtemps, s'il y a à nouveau un confinement, il faut étendre les programmes de secours, le chômage partiel, l'aide aux jeunes, l'aide aux entreprises en difficulté, les reports d'impôts, etc. Donc, et peut-être même s'attendre à une nouvelle série de crédits avec des garanties de l'État. La question des finances publiques, c'est une question qui se posera bien beaucoup plus tard. C'est une question qui ne se reposera que quand la BCE arrêtera d'acheter toutes les dettes publiques qu'émettent les États. Et ça, c'est pas avant la mi-2022 ou même plus tard. Donc, et évidemment, les déficits publics qui sont alors structurels, hein, qui resteront à cette époque, seront des déficits qui seront plus difficiles à financer. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on fait pour répondre à la crise n'a aucun problème, quoi. Il n'y a aucune limitation.
À défaut d'arrêter totalement le quoi qu'il en coûte, est-ce qu'on ne peut pas finalement peut-être envisager une meilleure répartition des aides? Parce que depuis le début de la crise, depuis mars 2020, on a du recul maintenant et on voit qu'il y a des secteurs qui s'en sortent, je dirais, plutôt bien et d'autres qui sont en réelle difficulté. Donc, est-ce qu'il ne faut pas recentrer les aides financières vers ces secteurs qui sont aujourd'hui à l'arrêt, plutôt qu'un saupoudrage général, comme il est fait aujourd'hui, un saupoudrage avec de l'argent qui arrose aussi des secteurs qui fonctionnent relativement bien?
Oui, je vous trouve un peu sévère, Emmanuel, parce que les mesures qu'on a aujourd'hui, quand même, sont ciblées sur les secteurs en difficulté. Hein, le plan de sauvetage l'image des entreprises, il concerne la restauration, l'hôtellerie, la distribution, la culture, et pas les entreprises qui vont bien. Les PGE ont été distribués de façon massive dans ces mêmes secteurs qui sont en difficulté. Donc on a quand même pas énormément arrosé de façon globale. Alors les mesures, il y a eu des mesures globales de prise, par exemple la baisse des impôts de production, mais de toute façon on aurait dû la prendre même sans la crise de la Covid, et non, elle touche toutes les entreprises. Non, je crois que le vrai sujet plutôt, c'est, je pense qu'on a été extrêmement performant dans le soutien en moyenne des ménages, hein, puisque le revenu disponible des ménages n'a pas baissé en 2020, ce qui est incroyable hein, quand on perd 8 points de PIB. Et on a été moins performant sur le soutien des jeunes, hein, puisqu'on sait que les revenus des jeunes ont baissé entre 5 et 10%, et dans le soutien des entreprises, hein, puisqu'on a eu un recul assez important du revenu, hein, des profits des entreprises. Donc on a très bien soutenu les ménages à part les jeunes, et on a moins bien soutenu les jeunes, et on a moins bien soutenu les entreprises, en particulier dans les secteurs en difficulté, puisque par rapport à l'Allemagne, par exemple, on voit quand même une baisse des résultats des entreprises beaucoup plus forte en France, et du coup, un besoin d'endettement beaucoup plus important en France. Donc, si on réoriente les aides, je crois que c'est plutôt vers les jeunes, c'est des débats qui sont évidemment très importants aujourd'hui et qui vont aboutir, je pense. Et moi, je pousse, par exemple, l'extension de la garantie jeune à tous les jeunes qui sont dans un parcours de formation, et pas seulement aux jeunes en réinsertion. Et puis, vers les entreprises, où à mon avis, on ne fait pas assez. On a trop basé le soutien des entreprises sur le crédit, ce qui finit par poser des problèmes, hein, et pas assez sur les subventions, comme le font d'autres pays.
Alors, faut-il effacer, par exemple, les PGE, les fameux prêts garantis par l'État, ou les transformer en fonds propres, comme vous l'évoquiez ?
Alors, la transformation en fonds propres, ça serait formidable dans l'absolu, mais c'est extrêmement compliqué pour les PME. Ça peut se faire pour des entreprises moyennes grandes, hein, mais pour des centaines de milliers de PME, c'est quand même très compliqué, parce que c'est compliqué de trouver des fonds propres. Hein. Le PGE, c'est un crédit qui est le même pour tout le monde. Hein. Tout le monde a le même crédit avec le même taux d'intérêt. Dès que vous faites des fonds propres ou des quasi-fonds propres, une dette subordonnée, c'est forcément spécifique à chaque entreprise, donc c'est infaisable comme travail. Non, le plus probable, c'est qu'on va avoir des transformations en fonds propres pour les ETI et les grands groupes lorsque ce sera nécessaire, mais c'est moins nécessaire parce que les crédits ont surtout été pris par les PME. Et pour les PME, on a plutôt une logique qui est soit d'allongement au maximum de la durée des prêts, et puis sans doute l'État, dans certains cas, va devoir exercer sa garantie. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que si un PGE est annulé, 90% de garantie de l'État, et même sur les TPE, parfois c'est 100%, et que l'État donc perd le prêt, c'est exactement comme si l'État, au lieu d'apporter un crédit garanti, avait fait une subvention à l'entreprise. En fait, on revient vers le modèle allemand, finalement, en abandonnant un certain nombre de PGE.
Eh bien, on va suivre tout cela de très près à l'aune des prochaines annonces que le gouvernement s'apprête à faire. Merci infiniment, Patrick Artus, membre du Cercle des économistes. Bonne journée.